Histoire des îles Marquises, de Akakayo Tehenua Enana, de Fenua Enata. Une série de 60 émissions conçues, réalisées et racontées par Jacques Jacopo Pello.
Chers amis des îles Marquises et du reste du monde, Ka Ohanui, et bienvenue dans cette 25e émission.
Édition 2023.
La fois passée, nous avions vu comment, après leur sanglante défaite, les Hapa'a s'étaient alliés à Kiatonui et à Porter. Ce dernier avait ainsi pu réunir 4000 hommes pour construire son camp à Hakapehi. N'étant pas venu pour faire la guerre, Porter a envoyé un émissaire aux Taipi de Vaihi afin de leur demander leur collaboration. Le 9 novembre 1813, le messager revient et dévoile son message en présence de Porter, Kiatonui et Mowina, le chef des guerriers, ainsi que d'autres chefs des tribus amies. Les Taipi clament qu'ils n'ont pas besoin de l'amitié de Porter et ne comprennent pas pourquoi ils devraient lui envoyer des porcs. Ils expliquent que si Porter se sent assez fort pour les attaquer, qu'il les attaque, faute de quoi il reconnaîtrait lui-même son infériorité en même temps que les Taipi reconnaîtraient leur supériorité. En furie, le Tohanui Mowina veut la guerre immédiate. Mais, après avoir envisagé se déplacer en personne, Kiatonui décide d'envoyer en émissaire de paix
son premier fils Tuitoua, qui revient le 11 novembre avec des messages d'insultes pour Porter,
les Teihi et les Hapa. Les Taipi les traitent tous globalement de lâches et de trouducs. Ils les défient de venir dans leur vallée car ils ne redoutent pas leur fusil Puhi. Kiatonui consent alors à la guerre que Mowina insiste pour commencer sur le champ. Mais désireux d'asseoir son autorité sur tous, Porter le met vertement à sa place. Mowina le traite alors de lâche et Porter, le menaçant d'un mousquet appliqué sur la poitrine, lui ordonne de sortir du camp et de ne plus y remettre les pieds. Porter s'enquiert auprès de Kiatonui du nombre de pirogues de guerre dont il dispose. Il répond qu'il lui faudra 6 jours pour remonter 10 pirogues, pouvant transporter 30 hommes chacune. Les Hapa'a en promettent autant. Voici un détail des plus intéressants qui prouve bien qu'en temps normal, les grandes pirogues étaient démontées et stockées, morceau par morceau, chez les habitants qui en étaient les gardiens. Démonter et remonter les pirogues était une activité communautaire à destination guerrière mobilisant la tribu tout entière. Tout comme la convocation des 4000 hommes pour construire le village de Porter, seul un chef Hakaiki avait les moyens et le mana de faire exécuter de tels ordres et de mobiliser un tel nombre de personnes. Le projet de Porter est d'attaquer les Taipi par terre et par mer, mais il espère encore les décourager de faire la guerre à la vue de ses troupes. En outre, il ne fait pas entièrement confiance à Kiatonui et lui demande la permission d'occuper la colline Tuhiva pour y bâtir un fort. Le chef s'empresse d'accepter et lui propose les services de sa tribu. Porter accepte, après lui avoir fait renouveler ses vœux d'allégeance.
De nos jours, cette colline Tuhiva est connue de par le monde depuis qu'un grand tiki femme de 12 mètres de haut, portant le même nom, en occupe le sommet. Malgré sa position stratégique, dominant la baie, les anciens marquisiens ne semblent pas l'avoir utilisée à un quelconque usage. C'est donc là que Porter construisit son fort en 1813, suivi par la marine française en 1842 qui, après y avoir tenu la cérémonie d'annexion des marquises Nord le 1er juin, construira à son sommet le fort Colette du nom du premier commandant particulier des marquises Nord.
Du 12 au 13 novembre, les travaux d'aménagement de la colline Tuhiva commencent. Aidés par les hommes de Porter, les Teihi nivellent le fait de l'éminence, bientôt défendu par un parapet de barils à eau rempli de terre. 4 pièces d'artillerie sont apportées des prises et installées dans des embrasures prévues pour 16 canons. Porter, qui était un excellent dessinateur, nous a laissé plusieurs dessins qu'il a exécutés lui-même, dont un qui montre exactement cette scène, dessinée d'un peu au large, où l'on voit quelques navires dans la baie, et on voit aussi très bien Touhiva surmontée de ces fortifications dont on vient de parler. Le dimanche 14 novembre, le fort est achevé. Les tribus amies, venues apporter leur contribution de vivres, participent aussi au travail. Le lieu est placé sous le commandement du lieutenant des fusiliers marins, John Gamble, secondé par deux aspirants à la tête de 21 hommes. Après le départ de Porter, le 12 décembre, c'est Gamble qui le remplacera jusqu'en mai 1814. Le vendredi 19 novembre, au nom des États-Unis d'Amérique, Porter prend possession de Nuku'hiva qu'il nomme « Île Madison » du nom du président US en poste. La colline Touhiva devient Fort Madison, le village de Akapehi, Madisonville, et la baie, baie de Massachusetts, du nom de l'État dont Porter était originaire. L'acte est officialisé par une salve de 17 coups de canon tirés du fort auxquels répondent 17 autres salves provenant des navires à l'ancre. Une déclaration, paraffée par les officiers présents, stipule en outre que ce sont les tribus indigènes mentionnées dans l'acte qui ont demandé la protection des États-Unis. Porter fait rédiger plusieurs exemplaires de l'acte, dont un sera remis au capitaine du navire centalier de passage l'Albatros à son départ le 24 novembre. Un second, placé dans une bouteille avec quelques pièces de monnaie US, le tout enterré au pied du Fort Madison.
Malheureusement pour Porter et pour nous, cette bouteille n'est plus là. Ce sont les Anglais qui, ayant capturé Porter 6 mois plus tard et ayant appris son histoire, se sont empressés de passer par Nuku'hiva en août 1814 afin d'en prendre possession et de s'emparer de ce que Porter y avait laissé, le petit trésor particulièrement.
Le 24 novembre, avant le départ du centalier Albatros, Porter vante au capitaine du navire les 4 canons montés sur le Fort Madison, lui laissant croire qu'ils n'avaient été là que pour la prise de possession de l'île. Ils seront remplacés par d'autres plus tard. En effet, Porter voulait rester discret sur sa présence à Nuku'hiva. Il voulait éviter que la flotte anglaise ne la prenne et ne vienne le capturer avec des dizaines de vaisseaux. Porter accompagne lui-même l'Albatros jusqu'en haute mer et, entre autres documents, il confie donc au capitaine un exemplaire de la déclaration de prise de possession de Nuku'hiva ainsi que d'autres documents soigneusement scellés de plomb pour être jetés par-dessus bord en cas de capture. Ces documents étaient des documents militaires,
par conséquent top secret.
Ils étaient donc scellés avec du plomb. Et au cas où le navire serait attaqué et capturé, les officiers jetaient par-dessus bord ces documents qui coulaient immédiatement.
Oh,
Après le départ de l'Albatros, tout comme Krusenstern en 1804, Porter décide de se rendre directement à Hakatea et Hakaui. Sur la plage de cette dernière, une foule de naturels les accueille et Porter fait tracer une ligne sur le sable barrant l'accès aux chaloupes qui deviennent ainsi tap. Le chef, dont il ne précise pas le nom, invite les Américains à se rendre sur le Tohua le plus proche, probablement Pona Ouoho dont nous avions précédemment parlé lors du passage de Krusenstern en 1804, et photographié encore en bon état en 1887 par Karl von den Steinen, et qui est désormais pratiquement invisible. À l'arrivée de Porter, de nombreuses femmes sont présentes. Elles sont parées de leurs plus beaux atours. Les corps sont couverts d'huile de coco et de curcuma rouge ou jaune. D'autres sont badigeonnées de vert, du jus de la liane papa, mélangé à un autre produit qui protège du soleil. Certaines courent se laver à la rivière et reviennent drapées de tapa blanc. On fait cuire un porc et des fruits de l'arbre à pain, mais dans un four umukai spécial, et le repas est servi au terme d'une heure. La femme du chef, fille illégitime de Kiato Nui, qui se nomme Tahiatai Oa comme la femme de Kiato Nui, sait que Porter a échangé son nom avec son père et demande donc à son nouveau père de rester pour la nuit. Après le repas, les femmes chantent en chœur en battant des mains pendant une demi-heure, puis elles inventent une autre chanson en l'honneur de Porter et la soirée continue avec des démonstrations de jeux de ficelle péhé connus de par le monde. C'est tard dans la soirée que Porter rejoint son navire. Le 27 novembre, après une période de calme relatif, les Taipi avaient repris leurs insultes et agressions à l'égard des Teihi, Hapa'a et Teawa'aki de Ho'oumi, allant jusqu'à menacer ces derniers de les chasser de leur territoire, comme ils avaient tenté de le faire en 1808. Les Teihi et les Hapa'a réclamaient la guerre, et ne comprenant pas que Porter toléra l'insolence des Taipi, leur contribution en nourriture diminuait de jour en jour tandis que les Taipi vivaient dans l'abondance. Ce jour-là, Porter annonce aux Teihi et aux Hapa'a qu'il ira déclarer la guerre aux Taipi le lendemain. Il demande à Kiato Nui de monter à bord de l'Essex Junior qui fait voile dans l'après-midi vers Ha'ahanga, l'ancien nom de la baie de Taipivai. Le 28 novembre, à 3h du matin, porteur quitta Yohai à la tête de 5 chaloupes accompagnées de 10 pirogues de guerre. Au lever du soleil, la flottille atteint la plage de Taipivai, où elle est rejointe par 10 pirogues de guerre Hapa'a et l'Essex Junior. Au total, de 4 à 5 000 hommes armés de lances, massues et frondes sont positionnés sur l'eau et toutes les crêtes alentour. Porteur monte sur le navire chercher une quinzaine de fusillés marins qui, joints aux 20 déjà avec lui, devraient suffire, pense-t-il, à forcer les rebelles à entendre raison. Quand il retourne à terre, les Taipis ont déjà commencé à bombarder les intrus de pierres de fronde. Il leur envoie malgré tout un émissaire avec un drapeau blanc qui revient en courant et en sang, ayant été mis à mal par les Taipis. Aussitôt, depuis les Taïs voisins, les Taipis font pleuvoir une pluie de pierres sur la plage. Et secondé par Mowina et le lieutenant Downs, avec ses hommes, porteurs pénètrent dans les buissons. Au bout d'un kilomètre, sans avoir encore vu leurs ennemis, les alliés arrivent à une clairière où, brusquement touché par une pierre à la jambe gauche, le lieutenant Downs s'écroule. Porteur comprend qu'il a sous-estimé les Taipis, mais après avoir fait évacuer Downs par 4 hommes, il décide quand même de continuer à avancer avec Mowina, secondé de quelques Taï'i et les 24 fusiliers marins qui lui restent. Il comprend aussi que les centaines des nanas alliés n'ont pas quitté les crêtes, d'où ils observent la scène en silence. Arrivé à Ingué, Porteur est à nouveau bombardé de pierres et de lances sous lesquelles il entreprend la traversée de la rivière. Mais, sur l'autre rive, il se heurte à la haute muraille d'un soutènement d'un tohu, du haut de laquelle il est assailli par une grêle de pierres accompagnée de hurlements. 3 jours plus tard, après les ultimes combats, Porteur découvrira que ce tohu fait partie d'un ensemble de forteresses érigées par les Taipis des deux côtés de la rivière Wai'i, afin d'interdire l'entrée de leur vallée à des ennemis venus de la mer. À ce moment-là, il envisage donner l'assaut, mais faute de munitions, il décide de garder sa position et envoie le lieutenant Gamble avec 4 hommes chercher des cartouches sur le navire. Avec une troupe réduite à 19 hommes et Mowina resté seul à ses côtés, Porteur n'attend pas les renforts et après avoir fait panser les blessés, il feint la retraite vers un bosquet où le poursuivent les Taipis dont les 2 premiers guerriers sont abattus à bout portant. Ceux qui veulent emporter leur frère mort sont à leur tour blessés. La troupe des Taipis rebrousse chemin jusqu'au Tohua et Porteur en profite pour retraverser la rivière où ses hommes et lui tombent à nouveau sous une pluie de pierres sans que les Taipis ne tentent de traverser le cours d'eau. Depuis la plage, Porteur fait à nouveau envoyer un émissaire de paix à ses ennemis qui lui répondent par le mépris, ajoutant qu'ils connaissent maintenant sa stratégie et que les fusils pourris ne leur font pas peur car ils en connaissent les défauts en cas de pluie. En effet, en cas de pluie, les cartouches sont humides et les coups ne partent pas. Les Taï'i et Hapa'a sont maintenant rassemblés sur la plage et malgré la défaite apparente de Porteur, ils lui témoignent tous de leur fidélité. Porteur rejoint alors son vaisseau, d'où il aperçoit soudain les Taï'i attaquer ses alliés sur la plage, les forçant à se jeter dans leur pirogue ou même à la mer. Relançant ses chaloupes à la défense de ses amis, Porteur chasse les Taï'i de la plage. Lancés à leur poursuite, les alliés en tuent un d'un coup de pierre et l'emporte en triomphe. De retour au navire, Porteur rentre à Taiohae. Chers amis, nous voici arrivés à un tournant du séjour de Porteur à Taiohae. Allié des Taï'i et des Hapa'a, sa première attaque des Taipis a été un échec. Ne manquez pas la prochaine émission au cours de laquelle nous apprendrons comment, après avoir changé de technique, les alliés mettront un terme à l'invisibilité des Taipis de Wai'i. A bientôt pour la suite de cette histoire touchante et passionnante des îles Marquises. Rejoignez-moi sur ma page Facebook Te'eo, et sur mon site internet teo.com. Et merci à Jean-Michel pour sa chanson
Wapohu'ea,
je suis vivant, un hymne à la joie de vivre aux Marquises, où l'on ressent la force de la nature, où la nourriture est bonne et où le tatouage est roi. Si une question vous brûle les lèvres, n'hésitez pas à me contacter à mon adresse mail copo@mail.pf ou sur mon Vini 87 756 719. À bientôt, apai, o'ohaiho.
Te ati.